Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro, je vous accompagne avec grand plaisir au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Près de 50 000 élèves du primaire et du secondaire décrochent en raison de troubles de la communication. On entend par là dysphasie, dyslexie, entre autres. Et ce 50 000-là représente 40 % de l'ensemble des décrocheurs québécois. C'est énorme. C'est la semaine de la persévérance scolaire qui se poursuit jusqu'au 20 février. Et on se demande avec Agathe Tupula-Capola, elle qui est orthophoniste, comment on peut maintenir la motivation de ces élèves-là qui ont des troubles de la communication et également éviter les pièges de la semaine de relâche. Ça sera en deuxième ou en première partie d'émission parce qu'on a du mal à rejoindre mon premier invité qui est le docteur Jean Drouin, lui professeur de clinique à l'Université Laval, qui sera là, on se croise les doigts, pour nous parler des approches ou des thérapies complémentaires en santé, qui semble être de plus en plus accessible, de plus en plus apprécié de la population. Et on les utilise pour différentes raisons, que ce soit le maintien de la santé, celle de notre famille, bon, aussi amener un soulagement, un apaisement de la douleur, un bien-être. Mais aussi, parfois, ces approches-là complémentaires en santé sont là pour trouver une solution que la médecine conventionnelle, dite là, scientifique, bon, des résultats qu'elle ne donne pas, ou aussi parce que cette médecine-là n'est pas accessible. En quoi les médecines complémentaires peuvent réellement nous aider? Est-ce que c'est fiable? Ben, ça fera partie du débat et de la conversation que j'aurai avec le docteur Drouin. Mais pour l'instant, on prend une courte pause et on vous revient dans quelques instants. Bonjour Agathe.
Bonjour Marianne.
Agathe, vous êtes orthophoniste et vous êtes là pour nous parler aujourd'hui des pièges que peuvent représenter, parce qu'il y aurait des pièges au sein même de la semaine de relâche pour les élèves qui ont un trouble de la communication. Et pour les parents, ça peut être un grand défi de maintenir la motivation pendant cette semaine-là pour que les difficultés soient moindres au retour à l'école. Mais d'abord, les troubles de la communication, c'est quoi ça?
En fait, c'est une bonne question. La plupart d'entre nous, on tient notre capacité de communiquer pour acquis, mais la capacité de parler, d'entendre, d'être entendu, d'être compris, en fait, cette capacité-là est beaucoup plus essentielle à notre quotidien que la plupart d'entre nous, on le réalise. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des difficultés ou des troubles qui touchent la communication, donc ils vont avoir du mal à comprendre. Ça peut se traduire de différentes façons. Chez un élève, en fait, par exemple, l'élève peut avoir du mal à exprimer ses besoins, à communiquer ses émotions. Il peut avoir du mal à participer en classe, à des activités, à suivre la routine. Il peut aussi également avoir du mal à prononcer certains mots, à formuler des phrases, à manifester son incompréhension. Donc, c'est assez variable d'une personne à l'autre, d'un élève à l'autre.
Est-ce que ça s'identifie facilement, les troubles de la communication chez l'enfant?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est identifié seulement à l'entrée à l'école, par exemple à la maternelle ou même plus tard, en première, deuxième année. Mais il y a des signes précurseurs qui peuvent être identifiés bien avant, dès l'âge préscolaire. Et c'est important en tant que parent ou en tant qu'intervenant d'être à l'affût de ces signaux d'alerte-là qui peuvent nous indiquer que l'enfant a des difficultés qui touchent le langage ou la communication. Par exemple, un enfant qui va exprimer ses premiers mots plus tardivement ou chez qui on va observer un développement du vocabulaire plus lent. Un enfant qui va avoir du mal, par exemple, à établir un contact visuel avec nous ou déjà dans le milieu de garde, il va avoir du mal à suivre la routine au sein du groupe. Ça peut être des indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille.
Des indices et bien sûr des impacts sur le cheminement scolaire de l'enfant. Et j'imagine que c'est pour ça qu'ils sont plus à risque de décrocher.
Effectivement, en fait, l'intégration scolaire, l'autonomie, la confiance en soi, tout ça, ça va être compromis par les troubles de la communication, par les différentes situations de handicap que ça va créer. Et puis, c'est pas seulement l'élève ou l'enfant qui va être affecté, c'est vraiment aussi sa famille, les proches.
Mm-hmm.
Et puis, d'autant plus pour les élèves, en fait, chez qui le diagnostic tombe pas tout de suite, qui va tomber peut-être un peu plus tard dans le parcours scolaire. À ce moment-là, il peut accumuler des retards, puis ça peut amener un certain découragement ou une baisse de motivation.
Donc, on a intérêt à faire le diagnostic ou à identifier le trouble de la communication le plus tôt possible.
Exactement, tout à fait. D'où l'importance de consulter en orthophonie quand on a des inquiétudes par rapport au développement langagier de son enfant,
mm-hmm.
et de ne pas attendre que le temps arrange les choses finalement.
Agathe, et ça, c'est très intéressant comme angle, à savoir que la semaine de relâche là, qui s'en vient, c'est la première de mars là, qui s'en vient incessamment, peut être un obstacle pour ces enfants-là.
Effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que présentement, on est vraiment dans la période lors de laquelle on remet le deuxième bulletin scolaire. Et puis, en fait, le fait de combiner des moins bons résultats ou des moins bonnes notes et un long congé,
ouais.
Ça peut amener une baisse de motivation chez l'enfant, et particulièrement chez l'enfant qui a des difficultés d'apprentissage ou un trouble de la communication. Donc, déjà après les fêtes, c'est pas rare qu'on observe plus d'absentéisme. Mm-hmm. Et puis, la pente peut avoir l'air plus dure à remonter rendue en février.
Oui.
À ce moment-ci de l'année.
Vous êtes orthophoniste, Agathe, donc vous les côtoyez, ces enfants-là. Est-ce qu'ils aiment l'école?
En fait, c'est très important et on essaie que ces enfants-là présentent un intérêt marqué pour l'école. Je vous dirais que les parents viennent jouer un rôle clé à ce niveau-là. Mmh. Les parents sont vraiment un pivot, si je peux dire, et puis ils vont avoir... en fait, l'attitude des parents va être très déterminante à savoir si l'enfant va aimer ou non l'école. Puis, c'est sûr également que l'équipe d'intervenants à l'école va aussi avoir un impact sur l'intérêt de l'enfant pour l'école et le milieu scolaire.
Mm-hmm. Donc, l'amour pour l'école, ça se communique et ça peut être un bon moyen de l'exprimer à notre enfant pendant la semaine de relâche. Quels sont les trucs concrets que les parents peuvent faire auprès de leur enfant pour favoriser la motivation?
Moi, je dirais que c'est de poser des petits gestes simples au quotidien. Par exemple, j'aime beaucoup mettre l'accent sur l'importance de la lecture. Ça peut avoir l'air banal, mais en fait, il y a plusieurs recherches qui ont démontré que quand la lecture est faite régulièrement, dès le bas âge, en fait, même quand l'enfant est bébé, ça va faciliter de beaucoup l'acquisition du langage. Et puis, en fait, le nombre de mots auxquels l'enfant va être exposé avant la maternelle, ça va être un bon indicateur, mm-hmm. là, pour prédire le niveau d'habileté en lecture de l'enfant plus tard. Et puis, c'est sûr que l'enfant qui a un vocabulaire étendu, généralement, il va avoir plus d'intérêt pour la lecture, plus de plaisir à lire également. Donc, comment ça peut se traduire dans le quotidien? C'est vraiment en rendant les livres accessibles à l'enfant, des livres qui rejoignent ses intérêts, aller visiter la bibliothèque de quartier ou même le croque-livre le plus près de chez soi, là, les croque-livres qui ont fait leur arrivée à l'automne dernier au Québec.
C'est quoi ça, Agathe?
Les croque-livres, oui. En fait, c'est des boîtes qu'on peut trouver à l'extérieur ou à l'intérieur dans différents lieux publics dans la province. Si je ne me trompe pas, il y en a environ une soixantaine actuellement. Et puis, dans les boîtes en question, on met des livres pour les enfants de 0 à 12 ans. Et puis, c'est un système de partage, de libre-échange. Donc, ce n'est pas un emprunt. L'enfant n'a pas à remettre le livre qu'il emprunte dans le croque-livre. Il peut le conserver. Et puis, c'est le principe de donner au suivant. Il peut par la suite remettre mm-hmm. un livre pour d'autres enfants éventuellement.
Ah, ben c'est une initiative très, très chouette, ça. Merci de nous l'apprendre, Agathe. Et j'imagine aussi qu'être en contact avec de nouveaux mots, apprendre à les lire, à les dire, à les comprendre, ça nous aide, point de vue de l'orthographe.
Oui, oui, effectivement. Le plus tôt l'enfant est exposé à la lecture, le mieux ça va être pour l'acquisition de la lecture, pour traduire en symbole le langage oral, de le transposer au langage écrit, effectivement.
Mm-hmm. Pendant la semaine de relâche, souvent, c'est un moment de repos, un moment d'activité pour se faire plaisir, mais il mm-hmm. faut quand même garder en tête qu'il y a les devoirs et les leçons à faire. C'est important pour le parent de ramener ça sur la table avec l'enfant?
Oui, je dirais que la routine, la constance, la régularité, c'est très important d'avoir un horaire régulier, particulièrement, je dirais, pour les enfants qui ont des difficultés au niveau de l'attention ou troubles de la communication. Donc, le fait d'instaurer une saine routine dès le bas âge, en fait, tôt dans la scolarité, ça va être plus facile ensuite de maintenir ça tout au long du cursus scolaire. Puis, c'est important aussi pour le parent de se montrer disponible durant la période des devoirs et des leçons sans nécessairement être constamment à côté de l'enfant, ouais. Mais de se montrer disponible, répondre aux questions, aux besoins, pas faire les devoirs à la place de l'enfant, mais lui donner des pistes de solutions aux besoins, puis aller chercher de l'aide extérieure si nécessaire, que ce soit par exemple un tuteur, tutorat par les pairs à l'école. Parfois, il y a même des services d'aide aux devoirs dans les établissements scolaires. Mmh. Donc, ça peut être intéressant de se renseigner à ce niveau-là.
Et j'imagine que des fois, on peut même mettre de la partie le grand frère ou la grande sœur. Ça peut devenir amusant, oui. Que ça soit une activité familiale.
Effectivement, oui. Moi, je crois beaucoup à l'implication des proches dans le processus d'intervention avec les jeunes. Donc, effectivement, puis en même temps, ça peut responsabiliser le grand frère ou la grande sœur. Puis ça leur permet de passer ensemble des moments privilégiés, là, développer la complicité entre frères et sœurs.
Est-ce qu'il y a des attitudes parentales? Bon, vous parliez d'être proche, de s'asseoir à la table pour faire les devoirs. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'aborder aussi le travail scolaire?
Oui, je dirais que c'est important, en fait, que le parent ait des paroles puis des attitudes favorables aussi vis-à-vis de son enfant, parce que ça va encourager inconsciemment des comportements qui vont mener à la réussite scolaire de l'enfant. On pourrait décrire ça un peu comme l'effet Pygmalion. En fait, l'effet Pygmalion, c'est un effet psychologique qui dit que l'image que je vais me faire de l'autre va influencer son comportement puis guider ses actions aussi envers moi. Puis de la même façon, bien, mon comportement va influencer sa réaction. Donc, autrement dit, concrètement, si je baisse mes attentes par rapport à un enfant, il risque effectivement d'être moins performant. Ça a été démontré là, que quand, par exemple, les enseignants ont des préjugés favorables vis-à-vis un enfant, ils vont accorder un peu plus de temps, plus d'énergie pour ces enfants-là. Ils vont établir même plus fréquemment un contact visuel avec ces enfants-là. Donc, ça se traduit de différentes façons. Mm-hmm. Donc, de se montrer vraiment disponible, de faire savoir à notre enfant qu'on a un soutien inconditionnel, tant par les paroles que par les gestes. Et puis, en fait, je dirais aussi, pourquoi pas participer aux activités scolaires quand on en a l'occasion. Le simple fait d'aller à la rencontre parents-enseignants aussi, ça vient envoyer le message à notre enfant que son éducation est importante pour nous, ça nous tient à cœur. Et puis, ça se traduit verbalement et aussi à l'écrit. Par exemple, on pourrait glisser un mot d'encouragement, de félicitations à notre enfant dans son agenda, sur ses examens, plutôt que de simplement signer l'examen, par exemple.
Comment on fait quand on a un problème qui a différentes difficultés scolaires, de ne pas mettre l'accent là-dessus quand il arrive, soit avec des notes qui, justement, peut-être nous déçoivent ou correspondent pas à nos attentes? Alors, bien sûr, on veut rester positif, on veut rester encourageant pour l'enfant qui éprouve des difficultés, mais ça ne doit pas être évident comme approche.
Non, c'est vrai. D'où l'importance, à mon avis, de mettre l'accent sur les petits progrès. Autrement dit, de pas seulement célébrer les réussites, mais vraiment de souligner aussi les efforts puis le chemin qui a été parcouru, parce que, en fait, il suffit d'une suite de petits progrès pour observer une métamorphose, finalement. Donc, de mettre l'accent sur les petites avancées et de pas toujours ramener constamment l'enfant sur les travaux, les examens qui ont été moins satisfaisants de ce côté-là. Puis je dirais aussi que c'est important d'encourager notre enfant à reconnaître par lui-même ses réussites, pas seulement de lui mentionner ce que nous, on en pense, mais de l'amener lui aussi à verbaliser, par exemple, de lui demander d'exprimer 3 bonnes choses là, qui sont arrivées à l'école dans la journée. Ça pourrait être de prendre un moment chaque vendredi pour faire un retour sur les bons coups de la semaine aussi. Mais l'idée, c'est de ramener régulièrement sur la table les bons coups que l'enfant a effectués, parce qu'il y a aussi des forces et non seulement des faiblesses.
Oui, très, très intéressant, Agathe Tupula-Kabola. Bon, après ça, cet enfant-là, il est à l'école encore plus souvent qu'à la maison, parfois, et oui. Il a cette relation étroite avec son enseignant. On fait comment pour développer une belle relation avec cet adulte-là qui est signifiant pour notre enfant?
c'est important de faire de l'enseignant son allié. De quelle façon? Je dirais que c'est vraiment en exprimant ouvertement nos craintes, nos questionnements en tant que parents. De pas se gêner, que ce soit par courriel, par téléphone. C'est sûr que la rencontre parent-prof a lieu uniquement une fois dans l'année à l'automne. Mais par contre, c'est sûr qu'on peut avoir à d'autres moments de l'année besoin de communiquer avec l'enseignant. Donc, première chose, ce serait de pas se gêner de le faire quand on a des préoccupations. Disons qu'il y a des difficultés qui persistent dans la période des devoirs et des leçons. Également, si notre enfant a des suivis professionnels à l'extérieur de l'école, parfois certaines familles se dirigent vers le privé. C'est important de transmettre à l'école ces renseignements-là, puis de transmettre les rapports professionnels qui sont faits aussi au milieu scolaire pour participer en fait à l'élaboration d'un plan d'intervention qui va être fait en concertation avec tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Et c'est important que tout le monde travaille dans le même sens et que tout le monde soit informé pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant de façon spécifique et adéquate.
Mm-hmm. Agathe, à la veille de... on n'est pas à la veille de la semaine de relâche, là, mais c'est dans quelques jours. Est-ce qu'on demande à l'enseignant des travaux supplémentaires pour notre enfant? Bien sûr, tout ça en vue qu'il soit bien... qu'il ne soit pas en retard avec le groupe.
Moi, je dirais que l'enfant a également besoin d'une pause. Mm-hmm. C'est sain d'avoir une période de relâche, une semaine de relâche. Donc, l'idée, c'est pas de continuer à travailler fort puis de pas laisser de temps de repos. L'enfant a besoin de cette période-là. Toutefois, je dirais de peut-être pas trop déroger de la routine, essayer de conserver des heures de sommeil adéquates. Et puis, idéalement, dès que possible, après la relâche, réinstaurer la routine pour que l'enfant se sente confortable et qu'il n'ait pas du mal à reprendre la routine par la suite après la relâche.
Oui, tout en conservant le plaisir et l'estime de tout le monde. C'est ce qu'on retient, Agathe Tupula-Cabola. Je rappelle, vous êtes orthophoniste, cliniqueproaction.com. C'est là que vous travaillez, c'est là qu'on peut vous contacter aussi si on a besoin de services.
Effectivement.
Eh bien, ça m'a fait grand, grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne semaine de relâche. Vous allez vous aussi prendre une pause.
Oui.
Au revoir.
Merci beaucoup, plaisir. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Eh bien, Jean-Sébastien a travaillé très, très fort du côté de la régie, mais n'a pas réussi à joindre le docteur Jean Drouin. Il était là pour nous parler des médecines, des approches alternatives complémentaires en santé. Mais qu'à cela ne tienne, on vous propose une rediffusion de Marielle Potvin, elle également, qui est orthophoniste, orthopédagogue plutôt, pardonnez-moi, et qui nous parlait en novembre dernier du projet Voltaire. Donc, comment aider votre enfant avec l'orthographe, s'il a des soucis en orthographe. Et également, le projet Voltaire, c'est pour les adultes. Et tout ça, bien sûr, en lien avec cette semaine de la persévérance scolaire et toujours aussi pour vous offrir des pistes afin de garder la motivation de vos enfants à l'école. Voici cette rediffusion. Bonjour, Marielle Potvin.
Oui, bonjour, Marianne.
Le projet Voltaire, qui est un site web français qui favorise l'apprentissage de l'orthographe, vous avez découvert ça comment, vous?
En fait, c'est que j'ai une certaine veille pédagogique. Quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe en éducation ou pour perfectionner la langue française ou quoi que ce soit, en tant qu'orthopédagogue, j'ai une veille pédagogique qui fait en sorte que les informations viennent à moi.
Est-ce qu'il est utilisé? En fait, cette question-là menait à la seconde question, à savoir, est-ce que cette plateforme-là est utilisée dans nos écoles ici au Québec?
Je ne crois pas. Parce que le projet Voltaire, en fait, c'est un projet qui est européen. Mm-hmm. Donc, il faut savoir qu'ici, les outils qui sont permis ici au Québec doivent être d'abord approuvés par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, je ne crois pas que le projet Voltaire soit beaucoup utilisé. Par contre, en adaptation scolaire, on a une marge de manœuvre, nous, qui nous permet d'utiliser ce que bon nous semble compte tenu des difficultés de nos élèves. Donc, pour nous, c'est permis, mais pour l'ensemble des écoles, l'ensemble des classes régulières, je ne crois pas que ce soit très connu. En fait, j'en ai pas entendu parler dans mes réseaux et j'ai l'impression de détenir un petit trésor caché,
que vous partagez avec nous, ce qui est vraiment très gentil, Marielle. Comment il fonctionne, ce site-là?
Bien, en fait, c'est un site qui est gratuit, qui est en ligne, mais qui est aussi disponible en application mobile. On peut l'avoir sur notre iPhone, sur notre iPad, et on va simplement sur le site là, de projetvoltaire.fr. Ça s'écrit projet-voltaire.fr, tout simplement. Et avec un identifiant et un mot de passe, on s'inscrit gratuitement comme ça et justement, en ayant créé notre profil, le site va toujours garder en mémoire là où on en est dans nos progrès, dans nos résultats et tout ça. Donc, parfois, ne serait-ce qu'on a 10 minutes d'attente ici et là, où on est en transport en commun ou quoi que ce soit, c'est possible d'avoir accès partout où on a un Wi-Fi finalement, d'avoir accès à l'application et de s'exercer.
Oui, donc, parce que le site propose des tests d'orthographe ou des exercices d'orthographe pour peaufiner nos capacités à écrire.
Oui, c'est ça, pour se perfectionner. Et jusqu'à maintenant, le site existe depuis plusieurs années. Là, je peux pas vous dire précisément, mais je le connais depuis plusieurs années. Je le suggérais régulièrement à mes élèves en orthopédagogie à partir du secondaire, disons. Mm-hmm. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il rend, il donne une accessibilité là justement aux personnes malvoyantes et c'est nouveau ça. C'est ce qui m'a mis un peu, c'est ce qui m'a épaté là quand j'ai lu les dernières nouvelles au sujet du projet Voltaire. Effectivement, on doit passer un test pour établir notre niveau de connaissance. Donc, c'est pas un test là, que tout le monde passe avec les mêmes questions, même degré, tout ça. On établit notre niveau de connaissance et de compétence de la langue française. Et par la suite, il y a des exercices qui nous proviennent, qui sont un peu sur mesure, là, personnalisés, si on veut, pour nous. C'est ce qui est vraiment intéressant.
Est-ce que vous qui le connaissez depuis longtemps et qui l'utilisez avec vos élèves, notamment, les résultats sont probants? Comment ça doit être différent chez chacun, mais comment ça se voit, cette évolution-là?
Mais moi, je peux vous dire que les élèves l'aiment beaucoup. C'est quelque chose qui est très important parce que les élèves, quand ils sont motivés, à ce moment-là, puisque c'est sur l'informatique, puisque c'est sur Internet et tout ça, ils aiment beaucoup l'animation, ils aiment les types de questions. C'est très ludique. Donc, sous forme de jeu comme ça, ne serait-ce que cet aspect, quand je le propose aux élèves, ils me reviennent après en me disant qu'ils ont beaucoup aimé l'expérience. Mm-hmm. Donc, c'est très positif pour moi. Là, c'est pas aride comme test là, et c'est certainement pas un concours d'orthographe.
Ouais.
C'est vraiment un outil qui sert à se développer au niveau de nos connaissances orthographiques, qui sert vraiment à peaufiner nos connaissances, mais à notre rythme, bien sûr, et selon notre niveau de départ.
Oui, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas, contrairement à l'école, par exemple, on n'est pas noté ou au travail, il n'y a personne qui nous surveille, qui regarde au-dessus de notre épaule. On est, nous, avec la plateforme, avec notre ordinateur ou notre iPad ou, bon, peu importe ce qu'on utilise là pour aller sur Projet Voltaire. Donc, il y a un rythme qui nous appartient, puis bon, on se permet peut-être un petit peu plus l'erreur si ça arrive, là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre rapport à l'erreur est tout à fait changé à ce moment-là. Parce qu'on le fait pour nous. On le fait pour le plaisir. Et justement, sous une forme ludique. Donc, c'est accessible à tout le monde à partir du secondaire, je dirais. Tout le monde a intérêt à peaufiner notre belle langue française. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir que depuis le mois d'août dernier, c'est maintenant accessible aux personnes malvoyantes qui ont le droit aussi de se perfectionner, évidemment. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui, sous forme, j'étais allée un petit peu explorer cette mm-hmm. nouvelle, ce nouveau volet d'accessibilité. Les lettres mm-hmm. sont plus en plus grand format. Donc, c'est de cette façon-là que c'est plus accessible. C'est pas encore en braille, mais je pense qu'ils veulent le développer, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Mais contrairement à la version classique, la version pour personnes malvoyantes est en noir et blanc. Il n'y a pas d'ombre aussi. Tout est écrit plus gros. Moi, je l'ai expérimenté aussi et bien que n'étant pas malvoyante, mm-hmm. ça saute aux yeux vraiment de voir comment c'est plus facile pour les personnes malvoyantes. Mais on sait que certaines personnes ont des difficultés avec le champ de vision, alors que d'autres, c'est plus avec certaines couleurs et ouais. tout ça. Donc, je n'y connais pas là, en détail, mais le site pour la version accessible aux malvoyants répond le mieux possible aux différentes formes de malvoyance et selon les outils personnels que chaque personne utilise à ce moment-là, il peut en tirer vraiment un grand profit. Je pense que ça peut être très bien. Évidemment, c'est toujours à améliorer, là, comme vous dites. Il y aura éventuellement une version en braille.
Oui. On répète l'adresse www.projet-voltaire.fr, accessible gratuit pour tout le monde, c'est autant oui. si vous êtes adulte ou enfant. Marielle, et malvoyant aussi, je pense qu'il faut le répéter. Marielle Voltaire, j'allais vous appeler, mais oui, Marielle, pas de bain, Voltaire. C'est un compliment. Vous êtes orthopédagogue et c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Bon après-midi.
T'en prie, Marianne. Au revoir.
Eh bien, merci d'avoir été là. C'est ainsi que cette émission de C'est bon pour la santé se termine. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde. Vous le voyez pas, mais il travaille très, très fort derrière sa console. Marianne Paquette au micro qui vous invite à entrer en communication avec nous. Il y a différents moyens de le faire par téléphone. 1-800-361-0635, c'est le poste 220. Vous pouvez également nous joindre au www.canalm.org, mpaquette@vuesetvoix.com. On est en rediffusion à 17h. Et puis, on se retrouve, on se donne rendez-vous demain. Nous, je tiens à vous re-souhaiter une très, très bonne semaine de la persévérance scolaire s'il y a des tout-petits dans votre entourage et ça se poursuit jusqu'au 20 février. Portez-vous bien. À demain. Bye-bye.